Les portes du conclave.
Les cardinaux sont personnages d'importance et qui ne sauraient être confondus avec le menu fretin du clergé. Le comte de Poitiers leur fit réserver pour le service funèbre à la mémoire de Louis X l'église du couvent des frères prêcheurs, dite église des Jacobins, la plus belle, la plus vaste, après la primatiale Saint-Jean, et aussi la mieux fortifiée. Les cardinaux ne virent dans ce choix qu'un convenable hommage rendu à leur dignité. Aucun ne manqua à la cérémonie. Bien qu'ils ne fussent que 24, l'église était pleine, car chaque cardinal avait voulu arriver pompeusement, escorté de toute sa maison, chapelain, secrétaire, trésorier, clerc, damoiseau, valet, porteur de traîne et de flambeaux. Une foule d'un demi-millier de personnes au total se tenait entre les lourds piliers blancs. Rarement, messe funéraire fut suivie avec si peu de recueillement. Pour la première fois depuis bien des mois, les cardinaux qui vivaient par coterie en des résidences séparées se retrouvaient tous ensemble. Certains ne s'étaient pas rencontrés depuis près de 2 ans. Ils s'observaient les uns les autres, s'étudiaient, s'épiaient. « Avez-vous vu ? » chuchotait-on. « Orsini vient de saluer Fredol, le cadet. Stefanetti s'est entretenu tout un moment avec Mandagou. Se rapprocherait-il des Provençaux ?»« Oh, Duez a bien petite mine, le voilà fort en vieilli. » En effet, Jacques Duez, dont la légère et sautillante démarche surprenait habituellement chez un homme d'un tel âge, avançait ce jour-là d'un pas lent, traînant, et répondait vaguement au salut d'un air de lassitude et d'épuisement. Guccio Baglioni, en tenue de damoiseau, faisait partie de sa suite. Il était censé ne parler qu'italien et venir directement de Sienne. « Peut-être aurais-je mieux fait, se disait Guccio, de m'aller placer sous la protection du comte de Poitiers, car aujourd'hui sans doute je repartirai avec lui pour Paris, et je pourrais m'enquérir de Marie, dont je suis sans nouvelles depuis tant de jours, tandis que me voici dépendre en tout de ce vieux renard, à qui j'ai promis que mon oncle lui consentirait un prêt, et qui ne fera rien pour mon sort avant que l'argent ne soit arrivé. Or mon oncle ne me répond pas, et l'on dit que Paris est tout bouleversé. Marie, Marie, ma belle Marie, ne va-t-elle pas se croire abandonnée de moi? Peut-être me hait-elle à présent? Qu'en ont-ils fait? Il imaginait Marie séquestrée par ses frères à Cressay, ou dans quelque couvent pour filles repenties. Si une semaine s'écoule encore ainsi, je m'enfuirai à Paris. Ayant gagné sa place dans les stalles du cœur, Duez, tassé sur lui-même, surveillait discrètement ses voisins et parfois tournait un visage accablé vers le fond de l'église. À 2 stalles de Duez, Francesco Caetani, la face maigre, tranchée d'un long nez busqué et les cheveux s'envolant comme des flammes blanches autour de sa calotte rouge, ne cachait pas sa joie. Et ses regards qui allaient du catafalque aux gens de sa suite étaient des regards de victoire. « Voici, mes seigneurs, paraissait-il dire à la ronde, ce qui survient quand on s'attire la colère des Caetani, qui étaient déjà puissants du temps de Jules César. Le ciel veille à nous venger. » Les colonna au lourd menton rond partagé d'une fossette verticale et semblable à 2 guerriers déguisés en prélats le toisaient avec une hostilité manifeste. Dans l'ordonnance de la cérémonie, le comte de Poitiers n'avait pas lésiné sur le nombre des chantres. Ils étaient une bonne centaine soutenus par les orgues, dont 4 hommes maniant à plein bras les soufflets. Une musique tenante, royale, roulait sous les voûtes, saturait l'air de vibrations, enveloppait la foule. Les petits clercs pouvaient impunément bavarder entre eux, les damoiseaux ricaner en se moquant de leur maître. Il était impossible d'entendre ce qui se disait à 3 pas, et moins encore ce qui se passait aux portes. Le service s'acheva. Les orgues et les chantres se turent. Les vantaux du grand portail s'ouvrirent, mais aucune lumière ne pénétra dans l'église. Il y eut un instant de saisissement, comme si quelque miracle avait, pendant la cérémonie, obscurci le soleil. Et puis, les cardinaux comprirent, et des clameurs furieuses s'élevèrent. Un mur, tout frais, bouchait le portail. Le comte de Poitiers avait fait, pendant la messe, maçonner les issues. Les cardinaux étaient prisonniers. Un mouvement panique brassa l'assistance. Prélats, chanoines, prêtres, valets, toute dignité ou révérence oubliée, se mêlèrent, se bousculèrent, coururent et refluèrent comme rats pris en nasse. Des damoiseaux grimpant sur les épaules les uns des autres s'étaient hissés aux vitraux et annonçaient « L'église est cernée par des hommes d'armes !» Les cardinaux s'écriaient « Qu'allons-nous faire? Le régent nous a joué! Voilà pourquoi il nous gratifiait de si fortes musiques! C'est atteinte portée à l'église! Il faut l'excommunier! Il est bien temps, on va nous massacrer !» Déjà les 2 colonnas et les gens de leur parti s'étaient armés de lourds chandeliers de bronze. de bancs et de bâtons de procession, décidés à vendre chèrement leur existence, tandis qu'autour du baptistère, quelques cardinaux des divers partis se prenaient de bec. « Colpa vostra, colpa vostra !» c'est votre faute !» criait un Italien désignant les Français. « Si vous aviez refusé comme nous de venir à Lyon, nous savions bien qu'il nous y serait fait un mauvais coup !»« Si vous aviez élu l'un des nôtres, nous ne serions pas là à cette heure !» répliqua un Gascon. « La faute est à vous, mauvais chrétien !» Une seule porte n'était pas entièrement murée. On y avait laissé passage pour un homme. Mais cette étroite ouverture se hérissait d'un buisson de piques tenus par des gantelets de fer. Les piques se relevèrent, et le comte de Forez, en armure, suivi de Bermond de la Voulte et de quelques autres cuirasses, pénétra dans l'église. Une explosion d'injures l'accueillit. Les bras croisés sur la garde de son épée, le comte de Forez attendit que l'agitation se fût calmée. C'était un homme puissant, courageux, insensible aux menaces comme aux supplications. L'exemple de désunion, de vénalité, d'intrigue que les cardinaux donnaient depuis 2 ans le heurtait profondément, et il approuvait pleinement le comte de Poitiers de vouloir mettre terme à ce scandale. Son rude visage creusé de rides apparaissait par l'ouverture du haume. Quand les cardinaux et leurs gens se furent bien égosillés, sa voix s'éleva nette, martelée, se propageant par-dessus les têtes jusqu'au fond de la nef.